Amaranta Ursula s'en revint avec les premiers anges de décembre, poussée par les brises de la marine à voile, ramenant son époux tenu en laisse à l'aide d'une cordelette de soie. Elle fit son apparition sans en avoir aucunement prévenu, dans une robe de couleur ivoire, avec une rangée de perles qui lui descendait presque jusqu'aux genoux, des émeraudes et des topazes aux doigts, et ses cheveux coupés courts et lisses qui finissaient au niveau des oreilles en queue d'hirondelle. L'homme avec lequel elle s'était mariée 6 mois auparavant était un flamand d'âge mûr, à la taille élancée, aux airs de navigateur. Elle n'eut qu'à pousser la porte de la salle de séjour pour comprendre que son absence avait duré plus longtemps et causé plus de ravages qu'elle ne le supposait. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle, plus joyeuse que vraiment inquiète. « Ça se voit qu'il n'y a pas de femme dans cette maison !» Ses bagages ne pouvaient tous tenir sous la véranda. En plus de l'ancienne malle de Fernanda avec laquelle on l'avait expédiée au collège, elle ramenait 2 garde-robes tout en hauteur, 4 grandes valises, 1 long sac pour les ombrelles, 8 cartons à chapeau, une gigantesque cage avec une 50aine de canaris, ainsi que le vélocipède de son mari en pièces détachées dans un étui spécial qui permettait qu'on le portât comme un violoncelle. Elle ne s'accorda même pas un jour de repos au terme de ce long voyage. Elle enfila une combinaison de toile usagée que son mari avait apportée parmi d'autres tenues de mécanicien et se lança dans une nouvelle entreprise de restauration de la maison. Elle mit en déroute les fourmis rouges qui avaient déjà pris possession de la véranda, ressuscita les rosiers, arracha les mauvaises herbes jusqu'à la racine et repiqua de nouveau des fougères, des plants d'origan et des bégonias dans les jardinières de la balustrade. Elle prit la tête d'un commando de menuisiers, serruriers et maçons qui raptassèrent les sols crevassés, replacèrent portes et fenêtres dans leurs gonds, remirent à neuf les meubles et blanchirent les murs, au-dedans comme au-dehors, tant et si bien que 3 mois après son arrivée, on respirait de rechef l'atmosphère de jeunesse et de fête qui régnait du temps du piano mécanique. Jamais on ne vit à la maison quelqu'un de meilleure humeur, quelle que fût l'heure et en toutes circonstances, ni personne qui fût plus encline à chanter, à danser, à jeter à la poubelle les choses et les habitudes tournées allègres. D'un seul coup de balai, elle en termina avec les souvenirs funèbres et les tas d'oiseaux morts et d'attirails de superstition pelotonnés dans les coins et ne conserva par gratitude envers Ursula que le daguerréotype de Remedios au salon. « Voyez ce que je me paie !» s'écria-t-elle, morte de rire. « Une arrière-grand-mère de 14 ans !» Quand l'un des maçons lui raconta que la maison était peuplée de revenants et que la seule façon de les en chasser était de rechercher les trésors qu'ils y avaient laissés enfouis, elle répliqua entre 2 éclats de rire qu'elle n'ajoutait pas foi aux superstitions des hommes. Elle était si spontanée, si émancipée, d'une forme d'esprit si libre et moderne qu'Aureliano, la voyant venir à lui, ne sut quelle contenance adopter. « Quel barbare !» s'exclama-t-elle tout heureuse en lui ouvrant les bras. « Regardez-moi comme il a grandi, mon anthropophage adoré !» Avant qu'il n'eût le temps de réagir, elle avait déjà posé un disque sur le phonographe portatif qu'elle avait apporté et s'employait à lui apprendre les danses à la mode. Elle l'obligea à changer les pantalons étriqués qu'il avait hérités du colonel Aureliano Buendia, lui fit don de chemises de jeune homme et de souliers bicolores, et quand elle trouvait qu'il passait trop de temps dans la chambre de Melquiades, elle le poussait sans ménagement jusque dans la rue. Aussi active, menue et indomptable qu'Ursula, et presque aussi belle et provocante que Remedios la Belle, elle était douée d'un rare instinct qui lui permettait de toujours devancer la mode. Quand elle recevait par la poste les patrons de couture les plus récents, c'était à peine s'il lui servait à vérifier qu'elle ne s'était pas trompée dans les modèles de son invention qu'elle cousait sur la rudimentaire machine à manivelle d'Amaranta. Elle était abonnée à toutes les revues de mode, d'informations artistiques et de musique populaire qui se publiaient en Europe, et il lui suffisait d'y jeter un simple coup d'œil pour se rendre compte que les choses allaient de par le monde comme elle se les était imaginées. On ne pouvait comprendre qu'une telle femme, avec un esprit pareil, fût revenue dans un village mort, écrasé sous la poussière et la chaleur, et encore moins avec un mari qui avait suffisamment d'argent de côté pour mener une existence aisée en n'importe quel endroit du globe, et qu'il aimait au point d'accepter qu'elle le conduisît et lui ramenait tenue en laisse avec une cordelette de soie. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, son intention de rester paraissait plus évidente, car elle ne concevait de plan qui ne fût à long terme et ne prenait de décision qui n'eût visé à se ménager une existence confortable et une vieillesse paisible à Macondo. La cage aux canaris était une preuve que ses desseins ne dataient pas de la veille. Se rappelant une lettre de sa mère où celle-ci lui avait fait part de l'extermination des oiseaux, elle avait retardé son voyage de plusieurs mois jusqu'à trouver un bâtiment qui fit escale aux îles Fortunées où elle sélectionna 25 couples de canaris de la plus belle espèce pour repeupler le ciel de Macondo. Ce fut la plus lamentable de ses nombreuses initiatives avortées. Au fur et à mesure que se reproduisaient les oiseaux, Amaranta Ursula n'avait de cesse d'en relâcher un nombre égal qui ne se sentait pas plutôt libre qu'il s'enfuyait du village. En vain essaya-t-elle de leur faire prendre goût à la volière qu'avait construite Ursula lors de la première restauration. En vain leur fabriqua-t-elle de faux nids en alpha dans les amandiers, leur jeta-t-elle du millet sur les toits. Elle eut beau ameuter les prisonniers pour que leurs chants dissuadassent les déserteurs. Ceux-ci prenaient de l'altitude à la première occasion et décrivaient un cercle dans le ciel juste le temps nécessaire pour trouver le chemin du retour et mettre le cap sur les îles fortunées. Un an après son retour, bien qu'elle n'eût réussi à se lier d'amitié avec personne, non plus qu'à organiser aucune fête, Amaranta Ursula persistait à croire qu'il était possible d'arracher au malheur cette population qu'il avait élue. Gaston, son mari, se gardait bien de la contrarier. Bien qu'il eût compris depuis sa descente de train par un midi mortel que la résolution de sa femme avait été dictée par un mirage de la nostalgie. Certain qu'elle se trouverait vaincue par la réalité, il ne se donna même pas la peine de remonter son vélocipède, mais s'occupa à rechercher, parmi les toiles d'araignée que décrochaient les maçons, les plus beaux œufs qu'il ouvrait avec les ongles et dont il regardait sortir les minuscules bébés araignées, restant des heures à les contempler à la loupe. Plus tard, estimant qu'Amaranta Ursula ne poursuivait ses réformes que pour ne pas s'avouer vaincu, il se décida à monter son magnifique vélocipède, dont la roue antérieure était beaucoup plus grande que celle de derrière, et se consacra à la chasse et à la dissection de tous les insectes aborigènes qu'il trouvait dans les parages et qu'il expédiait dans des bocaux à marmelade à son ancien professeur d'histoire naturelle à l'université de Liège, où il avait fait des études poussées d'entomologie, bien que sa vocation dominante fût l'aéronautique. Pour rouler sur son vélocipède, il portait des pantalons d'acrobate, des chaussettes de cornemuseur et une casquette de détective. Mais pour aller à pied, il revêtait un costume de toile écrue irréprochable, avec des souliers blancs, une petite cravate de soie, un canotier sur la tête et une badine d'osier à la main. Il avait des prunelles pâles qui accentuaient son air de navigateur et une moustache en poil d'écureuil. Bien qu'il eût au moins 15 ans de plus que son épouse, ses goûts juvéniles, sa vigilante détermination à la rendre heureuse, ajoutée à ses qualités de bon amant, compensaient cette différence d'âge. En fait, ceux qui voyaient ce quadragénaire aux façons circonspectes, avec sa cordelette de soie autour du cou et sa bicyclette de cirque, n'auraient pu imaginer qu'il avait signé avec sa jeune épouse un pacte d'amour éperdu, ni qu'ils cédaient ensemble à cette attirance réciproque dans les endroits les moins indiqués, là où les surprenait l'inspiration. Ainsi qu'ils avaient fait depuis le jour de leur première rencontre, avec une passion que le cours du temps et les circonstances chaque fois plus insolites rendaient de jour en jour plus profonde et plus riche. Non seulement Gaston était un amant féroce, d'une science et d'une imagination intarissables, mais c'était sans doute le premier homme dans toute l'histoire de l'espèce à avoir effectué un atterrissage forcé et failli se tuer avec sa fiancée dans le seul but de faire l'amour au milieu d'un champ de violettes. Ils s'étaient connus 3 ans avant leur mariage. Un jour que le biplan de sport dans lequel ils faisaient des pirouettes au-dessus du collège d'Amaranta Ursula tenta une manœuvre intrépide pour éviter le mât de couleur et que cette primitive carcasse de toile goudronnée et de feuilles d'aluminium resta accrochée par la queue au câble de l'énergie électrique. Depuis lors, sans se préoccuper de sa jambe éclissée, il s'en allait chaque fin de semaine chercher Amaranta Ursula à la pension religieuse où elle vécut toujours, dont le règlement n'était pas aussi sévère que l'avait souhaité Fernanda, et l'emmenait à son club sportif. Ils commencèrent à s'aimer à 500 mètres d'altitude, dans l'air dominical au-dessus des Landes, et plus les êtres sur Terre leur paraissaient minuscules, plus ils se sentaient pénétrés l'un de l'autre. Elle lui parlait de Macondo comme du village le plus lumineux et le plus paisible du monde, et d'une gigantesque maison qui sentait bon l'origan, où elle aurait aimé vivre jusqu'à ses vieux jours aux côtés d'un mari fidèle, et 2 garçons rusés qui s'appelleraient Rodrigo et Gonzalo, et en aucun cas Aureliano ni José Arcadio, et d'une fille qui aurait nom Virginia, et en aucun cas Remedios. Elle avait montré tant d'ardeur et de ténacité dans ses évocations du village idéalisé par la nostalgie que Gaston comprit qu'elle n'aurait pas voulu se marier s'il ne l'avait pas emmenée vivre à Macondo. Il accepta, comme il le fit plus tard pour la cordelette de soie, parce qu'il pensa que c'était là quelques caprices éphémères qu'il valait mieux circonvenir à temps. mais quand se furent écoulés 2 ans à Macondo, sans qu'Amaranta Ursula parût moins contente qu'au premier jour, il commença à donner des signes d'inquiétude. Il en était au moment où il avait déjà disséqué tout ce qui se trouvait d'insectes à disséquer dans la région, parlait espagnol comme un indigène et avait résolu tous les mots croisés des revues qu'il recevait par la poste. Il ne pouvait prétexter le climat pour hâter leur retour, car la nature l'avait doté d'un foie colonial qui résistait sans ennui aux vapeurs de la sieste et à l'eau remplie d'asticots. Il appréciait tant la cuisine créole qu'il lui arriva de manger un jour 82 œufs d'iguane en grappe. Amaranta Ursula, par contre, se faisait livrer par train poissons et crustacés dans des caisses de glace, des conserves de viande et des fruits au sirop, les seules choses qu'elle pouvait manger, et continuait à s'habiller à la mode européenne et à recevoir des modèles par la poste, bien qu'elle n'eût d'endroit où aller ni personne à qui rendre visite, et qu'au point où on en était, son mari n'était pas en humeur d'apprécier ses tenues légères, ses feutres sur l'oreille ni ses colliers à 7 rangs. Son secret paraissait résider dans le fait qu'elle trouvait toujours une façon de s'occuper, résolvant des problèmes domestiques qu'elle se créait elle-même, et faisant mal certaines choses qu'elle corrigeait le lendemain avec un zèle pernicieux qui aurait rappelé à Fernanda le vice héréditaire de faire pour défaire. Son génie des fêtes était demeuré si vivace que, recevant de nouveaux disques, elle conviait Gaston à veiller très tard au salon pour répéter les pas de danse que ses amis de collège lui décrivaient à l'aide de croquis, et il finissait généralement par faire l'amour dans les fauteuils viennois ou à même le sol nu. Il ne lui manquait plus que de donner le jour à des enfants pour être tout à fait heureuse, mais elle respectait le pacte qu'elle avait conclu avec son mari de ne pas en avoir avant 5 ans de mariage. Cherchant de quoi occuper ses temps morts, Gaston allait de temps à autre passer la matinée dans la chambre de Melquiades en compagnie du farouche Aureliano. Il se plaisait à évoquer avec lui les coins les plus intimes de son pays natal, qu'Aureliano connaissait comme s'il y avait longtemps séjourné. Quand Gaston lui demanda comment il avait fait pour se procurer des renseignements qui ne figuraient même pas dans l'encyclopédie, il s'attira la même réponse que José Arcadio. « Tout se sait !» En plus du sanskrit, Aureliano avait appris l'anglais et le français, et un peu de grec et de latin. Comme il sortait désormais tous les après-midi et qu'Amaranta Ursula lui avait alloué une certaine somme, chaque semaine, pour ses dépenses personnelles, sa chambre ressemblait à présent à une section de la librairie du savant catalan. Il lisait avec avidité jusqu'à 1 heure très avancée de la nuit, bien que, de la manière dont il se référait à ses lectures, Gaston déduisait qu'il n'achetait pas ses livres pour s'informer, mais pour vérifier l'exactitude de ses propres connaissances, et qu'aucun ne l'intéressait plus que les parchemins auxquels il consacrait les meilleures heures de la matinée. Gaston, aussi bien que son épouse, aurait aimé le voir s'incorporer à la vie familiale. Mais Aureliano était un être hermétique, entouré d'un nuage de mystère qui devenait plus dense avec le temps. Il était d'un caractère si imperméable que les efforts de Gaston pour se rapprocher de lui se soldèrent par un échec et que celui-ci dut se chercher d'autres passe-temps pour occuper ses heures mortes. C'est vers cette époque que lui vint l'idée d'organiser un service de courrier aérien. Ce n'était pas un projet nouveau. En réalité, il se trouvait déjà assez avancé quand il avait connu Amaranta Ursula, à ceci près qu'il n'était pas conçu pour Macondo mais pour le Congo belge, où sa famille avait des actions dans l'huile de palme. Le mariage et la décision de passer quelques mois à Macondo pour faire plaisir à son épouse l'avaient contraint à le différer. Mais quand il s'aperçut qu'Amaranta Ursula s'était obstinée à mettre en place un comité de rénovation publique et était allé jusqu'à rire de lui parce qu'il avait fait allusion à l'éventualité du retour, il comprit que les choses risquaient de durer longtemps et il se remit en rapport avec ses lointains associés de Bruxelles, pensant que pour être pionnier, les Caraïbes valaient bien l'Afrique. Tandis que progressaient les démarches, il prépara un champ d'atterrissage dans l'ancienne région enchantée qui ressemblait alors à une plaine aussi dure que le silex et toute craquelée. Il étudia la direction des vents, la géographie du littoral et les itinéraires les mieux adaptés à la navigation aérienne, sans s'apercevoir que son empressement, qui ressemblait tant à celui de Mr. Herbert, était en train d'éveiller dans le village de dangereux soupçons, à savoir que son dessein n'était pas d'établir des plans de vol, mais de planter de la banane. Enthousiasmé par cette idée subite, qui après tout pouvait justifier son installation définitive à Macondo, il effectua plusieurs voyages jusqu'à la capitale de la province, rencontra les autorités, obtint des permis et souscrivit des contrats d'exclusivité. Cependant, il entretenait avec ses associés de Bruxelles une correspondance qui ressemblait à celle de Fernanda avec les médecins invisibles, et finit par les convaincre d'expédier par bateau le premier aéroplane en le confiant à un mécanicien expérimenté qui en remonterait les pièces détachées dans le port le plus proche et l'amènerait par la voie des airs jusqu'à Macondo. Un an après les premiers arpentages et calculs météorologiques, confiant dans les promesses réitérées de ses correspondants, l'habitude lui était venue de se promener dans les rues observant le ciel, attentif au oui-dire de la brise, dans l'attente que l'aéroplane apparût.